La revue de presse internationale, Camille Magnard, bonjour.
Bonjour.
Hier encore, des centaines de milliers de Hongkongais ont manifesté contre leur gouvernement et sa dirigeante Carrie Lam.
Et ce qui frappe dès que l'on se plonge dans les reportages du South China Morning Post sur ces nouveaux rassemblements pacifiques, eh bien, c'est le nombre. Le quotidien anglais de Hong Kong parle de 2 millions de manifestants, soit un habitant de la métropole asiatique sur 3. Preuve, même si la police, elle, n'a compté que 380 000 participants, que le mouvement de colère populaire à Hong Kong gagne encore de l'ampleur et ce malgré les dernières concessions du pouvoir exécutif. Il y a eu le report samedi du projet de loi permettant l'extradition de détenus hongkongais vers la Chine continentale. C'est ce motif qui avait mis le feu aux poudres. Mais le report n'y a rien changé, pas plus que les excuses publiques prononcées hier par Carrie Lam. Non, ce qui se joue à présent, analyse le New York Times, c'est un rejet beaucoup plus massif du gouvernement Lam que de simples excuses prononcées du bout des lèvres ne pouvait suffire à calmer. Ces excuses de la vie générale n'ont pas été jugées sincères de la part d'une chef de gouvernement connue pour son caractère arrogant et hautain. Trop peu, trop tard, a donc jugé la foule qui est redescendue encore plus nombreuse hier avec une foule de revendications encore plus longue. Et au sommet de cette liste, avec le retrait complet de la loi sur l'extradition, il y a désormais la démission de Carrie Lam. Son sort politique est clairement dans la balance, écrit The Guardian, qui explique aussi à quel point les violences policières de mercredi dernier contre les manifestants et le peu de volonté affichée par les autorités à poursuivre leurs auteurs a alimenté le ressentiment de la population. Carrie Lam doit assumer ses responsabilités et démissionner. Voilà ce que déclarait tout à l'heure à l'agence Hong Kong Free Press le leader étudiant Joshua Wong quand il a été libéré de la prison où il avait été enfermé en 2014 pour son rôle de leader dans la révolution des parapluies. Wong, héros du camp démocrate hongkongais, a déjà juré qu'il va rejoindre les manifestations des prochains jours. Et l'on comprend qu'avec la libération, hasard du calendrier, du meneur charismatique des parapluies, eh bien il y a clairement une jonction qui s'opère entre les deux soulèvements pro-démocratiques. Ce qui se passe depuis quelques semaines autour de la loi d'extradition et donc la suite de la révolution inachevée de 2014, renforcée encore par l'intransigeance de l'exécutif local qui n'a fait que réprimer toujours plus le camp de la démocratie et donner des gages de soumission à Pékin. Pour le régime chinois, une éventuelle démission forcée de Carrie Lam serait clairement un coup dur, ce serait un accroc sévère au pouvoir inoxydable de Xi Jinping. Telle est la formule aujourd'hui que l'on lit dans le New York Times.
Récit de ceux qui sont revenus de l'enfer à lire dans l'édition sud-américaine d'El País.
Et ces revenants, ce sont les prisonniers politiques libérés ces derniers jours par le président du Nicaragua, Daniel Ortega. Ces libérations, elles font partie d'un processus de retour à la paix civile et politique dans ce pays d'Amérique centrale où l'ex-sandiniste Ortega est vivement contesté par la rue depuis plus d'un an. Et les prisonniers graciés tout dernièrement sont justement, nous explique El País, les leaders de cette fronde contre le président accusé avec sa femme d'avoir installé un régime corrompu et autoritaire. De retour de l'enfer, c'est donc le titre de ce long reportage d'El País America qui nous décrit la prison d'El Chipotle dans le centre de la capitale Managua. Cette prison comme un véritable centre de torture où l'on privait les opposants de nourriture, d'eau, de tout vêtement, de tout confort et finalement de toute dignité pour leur faire renier leur cause et leur engagement dans ce grand mouvement de désobéissance civile qui a bien failli, il faut bien le dire, précipiter la chute du couple Ortega à l'été 2018. El Chipotle, c'est très révélateur de la trajectoire de Daniel Ortega. C'est la prison, déjà de funeste réputation, où il avait lui-même, en tant que guérillero sandiniste, été détenu, torturé dans les années 70 par les hommes de main du dictateur d'extrême droite Anastasio Somoza Debayle. L'histoire s'est donc inversée pour mieux se répéter, et El Confidencial nous rappelle qu'au-delà de l'amnistie à laquelle le président n'a eu d'autre choix que de se résoudre, il reste 89 prisonniers dans les geôles nicaraguayennes. 89 otages du régime ortéguiste, écrit même l'hebdo de Managua, qui appelle bien sûr à leur libération immédiate. Et de toute manière, les critiques sont nombreuses sur la manière dont s'est déroulée cette libération, présentée comme un geste de bonne volonté, de réconciliation de la part d'Ortega, alors que derrière l'amnistie, c'est l'impunité qui se cache, prévient l'édito du quotidien costaricain La Nación. Impunité accordée en même temps que la libération des prisonniers politiques, aux policiers et aux paramilitaires qui ont mené la répression sanglante à leur encontre. On libère les victimes mais on exonère les bourreaux. Peut-on vraiment parler dans ces conditions de réconciliation nationale?
Enfin, à l'autre bout de l'Amérique latine, l'Argentine a vécu hier une panne d'électricité sans précédent.
Oui, alors le courant est revenu dans la soirée d'hier, mais les journaux argentins en parlent encore largement ce matin. Clarine en particulier en parle pour tenter d'expliquer les raisons de ce blackout qui a, nous dit-on, privé 50 millions de personnes de lumière pendant 11 heures, qui a également touché des régions frontalières de l'Uruguay, du Brésil et du Chili. En cause, selon El Tribuno, il n'y a pas de malveillance humaine, de cyberattaque comme cela avait été craint au départ, mais il y a une série d'erreurs techniques entre les différentes centrales du pays, dont dépendent aussi quelques voisins, donc dans le cadre du système d'interconnexion électrique sud-américain. Je passe sur les articles qui nous expliquent comment en gros l'électricité arrive jusque dans notre salle de bain, le genre de questions pour lesquelles le citoyen lambda que nous sommes ne se passionne que quand ça ne marche pas. Et j'en termine avec cet article de Clarine, à nouveau, qui s'intéresse à là où les plombs n'ont pas sauté hier. La Terre de Feu, région à l'extrême sud du continent, a continué à avoir du courant pendant que le reste du pays s'éclairait à la bougie, car ce Finistère argentin, figurez-vous, est autosuffisant en électricité, autonome du reste du pays. Alors le reste du temps, c'est un problème parce que ça nous empêche de nous développer, d'accueillir plus d'habitants, explique une élue locale. Mais là, c'est vrai que ça a joué en notre faveur cette fois-ci. Ainsi, on a pu voter hier à Ushuaia et ailleurs en Terre de Feu quand les élections régionales ont été très compliquées ailleurs dans le pays et la gouverneure péroniste Rosana Bertone a été largement battue par le radical Gustavo Melella. Cette fois, je crois que vous savez tout.
Merci Camille Magnard.